Alors, je suis en compagnie de Paul Pironet et je sais qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Donc, Paul, je vais te demander de te présenter à nous et vous verrez, vous allez vous laisser guider par l'interview et voir justement où on va aller ensemble.
Eh bien, bonjour Nicolas, et puis bonjour à ceux qui nous suivent, à celui qui nous suit, ou à celle qui nous suit. Alors, Paul Pironet, bon, ça vous le savez déjà, moi je suis un passionné évidemment du monde humain. Une trentaine d'années maintenant que j'interviens dans le monde de la formation, plus particulièrement de l'enseignement de la PNL, bien que j'ai été formé à beaucoup d'autres approches. Alors, moi, ce qui me touche et ce qui m'anime surtout, c'est en fait le fait d'accompagner des gens vers le fait de retrouver en fait ce qui les porte profondément en eux, ce qui fait vibrer leur cœur, et puis à travers ces valeurs, des visions, de construire des projets qui soient le plus en phase avec leurs aspirations. Donc voilà, c'est la base un petit peu de la PNL qui, à partir de ces outils que tu connais aussi d'ailleurs, permet d'être plus conscient en fait de la manière dont on fonctionne, neurophysiologiquement. Et du coup, d'améliorer cette qualité de vie intérieure par une conscience plus précise, justement, de ce que sont nos valeurs, ce qui est important dans notre vie. Et puis après, d'organiser sa vie, c'est-à-dire prendre en compte ces différents domaines, soit personnel, social, le couple, la famille, le monde plus large, les amis, mais aussi l'activité, évidemment, professionnelle, de façon à avancer dans une vie qui soit de plus en plus en phase avec nos aspirations. Et donc, tous ces outils de communication, de connaissance de soi, nous permettent de gérer à la fois cette dimension mentale, hein, cette relation qu'on a au monde, dans nos perceptions, on va dire, dans nos croyances, mais aussi dans la dimension plus émotionnelle, ce qu'on a pu associer émotionnellement avec l'environnement, et puis bien sûr dans l'intégration de comportements, de rituels qui soient plus en phase en fait avec à la fois nos valeurs et nos visions.
Génial, génial. Et donc du coup, j'aime bien la façon dont tu l'amènes parce qu'on montre vraiment, on voit vraiment que tu es une personne qui est passionnée par ce que tu enseignes. Et ce qui est intéressant, c'est que enfin, moi, j'étais toujours connu dans le domaine de la formation. À quel moment ça a commencé pour toi?
Alors, la formation dans le domaine du développement personnel, ça a commencé, enfin, je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans, j'ai 53 ans.
D'accord.
Mais avant,
Wow.
j'avais un autre métier, je faisais du sauvetage en mer, j'étais spécialisé en côte dangereuse. C'est d'ailleurs là qu'est né, en fait, le désir et en tout cas l'importance de la dimension à la fois émotionnelle et relationnelle. Quand on fait des métiers qui sont très engageants, notamment face à une pression parfois importante, parce qu'entre souffler dans un mannequin et puis réveiller ou réanimer une personne alors que vous êtes au milieu de la famille qui est autour et qui vient de subir un choc, c'est tout autre chose. Donc on apprend le geste technique, mais on se rend compte après que la dimension émotionnelle ou interrelationnelle avec les autres, eh bien, est une dimension qui est extrêmement importante. Et donc c'est dans ce souci de mieux gérer ces situations en fait, que j'ai commencé dans le développement personnel. Alors avant, j'avais fait un peu de formation, puisque ayant été formé au secourisme, j'étais très pointu, hein, parce que j'ai fait tout ce qui existe en matière de secourisme, formation. Voilà. Et dans les formations de formateurs, que ce soit au niveau fédéral ou national, j'avais déjà commencé à animer des séminaires. Et c'est vrai que la pédagogie m'a toujours plu, c'est-à-dire que j'ai fait des où je les ai enseignés, j'ai fait la natation, je l'ai enseigné, j'ai fait du secours, je l'ai enseigné, j'ai fait de la formation en PNL, et puis j'ai fini par l'enseigner. Voilà, donc j'ai toujours été animé, en fait, au fond de moi, par cette passion de la retransmission.
Ah, intéressant, intéressant. Et justement, pour aller dans ce sens-là, je vois par exemple, tu vois, moi me concernant, je sais que j'adore enseigner, j'adore former. Par contre, je sais que en tant que conférencier, je suis pas, enfin, je me reconnais pas comme un bon conférencier. C'est pas quelque chose qui m'anime tant que ça. Je fais un petit peu de coaching aussi, pareil. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs, est-ce que tu te considères toi plus formateur ou plus conférencier coach? Et je pense que je connais, j'ai un petit peu un début de réponse. Et qu'est-ce qui fait que tu t'affectionnes plus un métier que les autres? Parce que finalement, ce sont des métiers très
Alors,
complémentaires mais différents.
absolument, absolument. Alors, je vais d'abord répondre à ta première question, c'est de quoi sur quel pan je suis le plus. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis d'ailleurs même heureux de t'entendre dire, parce que moi, je suis plus un formateur. J'ai passé beaucoup plus de temps à retransmettre, et comme tu le fais aussi toi, c'est-à-dire que la retransmission, c'est pas la même chose que faire des conférences. Alors, évidemment, mon métier m'a conduit autour de ma carrière à faire aussi des conférences, mais ce que j'aime, moi, dans la conférence, c'est quand on rentre un peu plus dans l'interaction. Ce que j'aime dans la formation, c'est qu'on est complètement dans l'interaction. Parce que former, juste pour retransmettre, bon, ben, c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est la relation humaine, c'est-à-dire c'est la qualité de l'interaction, les feedbacks que l'on a, en fonction d'une difficulté, comment on va rebondir, quelles sont les modalités les plus pratiques, les plus simples pour que les gens intègrent le mieux l'expérience, la connaissance ou le comportement qu'on voudrait leur permettre d'acquérir. Donc, c'est tout ce jeu-là que je trouve beaucoup plus stimulant, effectivement, dans le cadre d'une formation, même si, parce que ça fait partie de mon métier et à l'arrivée, j'aime quand même ça, transmettre en conférence. Mais en conférence, ben évidemment, on va soit raconter une histoire, soit transmettre quand même des grandes données, mais on a moins cette interaction qui fait pour moi toute la qualité d'un échange, hein, c'est-à-dire la profondeur, l'intensité, évidemment. Donc, les deux métiers sont intéressants, mais effectivement, c'est deux métiers différents, tu fais bien de le souligner.
Ouais, c'est intéressant. Et le coaching, est-ce que tu fais pratiquer?
Alors, le coaching... Ben, depuis longtemps, moi j'ai commencé en 90 hein, la formation. Le coaching, on en parle depuis 1996. C'est vraiment les premiers moments où on a apparu. Moi, c'est là que j'ai co-créé, d'ailleurs à l'époque, la première école de coaching en PNL avec Alain Carras, qui s'appelait l'Institut de Coaching International, que j'ai développé avec lui pendant 3 ans et puis ensuite il a repris, qui existe toujours d'ailleurs sur Genève. Après, j'ai créé d'autres écoles de coaching en parallèle à mon activité de PNL. J'en suis à ma 3e, à chaque fois avec des partenaires. Et alors, le coaching est un métier. Hein, la PNL, ce sont des outils qu'on acquiert. Qui sont, alors, nous, dans la manière dont on l'enseigne, ben, c'est vrai qu'on est très axé sur le développement de la personne, c'est-à-dire acquérir, accéder à son véritable potentiel. Il y a plein d'outils pour le faire. La PNL en est un, que je crois avoir aussi pas mal enrichi avec d'autres. Mais voilà, donc on est dans améliorer son potentiel, se révéler, et bien sûr, après, bah, se révéler à travers les différents domaines de sa vie, y compris professionnel. Donc moi, je parle d'évolution personnelle et professionnelle, quel que soit le métier. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis, de l'autre côté, on a vraiment les outils qu'on va incarner dans un métier, c'est-à-dire le coaching individuel ou d'équipe. On va intégrer aussi les métiers de l'animation, donc la conférence, animation d'atelier, animation de journée de séminaire. Ah, ça, il a eu bien changé, vous voyez encore. Et puis, derrière, les métiers de la formation, de l'organisation de séminaires. Et puis, la troisième branche, c'est tout ce qui touche au management. Ça fait partie de l'accompagnement. Hein. Donc, on peut accompagner par le coaching individuel ou d'équipe. On peut accompagner par, effectivement, la conférence, l'animation de groupe, la formation. Et puis, on peut accompagner aussi dans le cadre du management, qui est aussi la troisième branche pour moi, dans laquelle on a un rôle d'accompagnement aussi important. Mais c'est encore un métier différent que former, qui est un métier différent que de coacher. Même s'il y a des croisements, bien sûr, dans ces différents métiers.
Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et donc, tu parlais sur la formation, notamment donc, de l'interaction humaine. Et forcément, en plus sur toute la dynamique de la formation en ligne, du business de la connaissance et de toute cette dynamique-là, on pense aussi à la formation en numérique et justement à se dire, est-ce que justement il y a quelque chose qui manque par rapport à la formation numérique en présentiel? Et je sais que tu as les réponses à nous apporter là-dessus. Et au-delà de ça, on pourrait imaginer par exemple pour la PNL en tant que telle que c'est quelque chose qui se pratique, qui s'exerce. Donc, comment est-ce que justement on pourrait arriver à, pour moi je pense que c'est même une mission, à dire que non, sur le numérique, il y a des choses à faire et il y a des choses intéressantes.
Oui, alors c'était intéressant comme question parce qu'il y a eu vraiment des évolutions. Ouais. Moi, la première fois, par exemple, quand on a commencé le coaching en 1996, c'est venu d'une problématique. Un jour, on est en séminaire avec Alain Carol, on a 25 responsables d'entreprise avec nous sur 3 jours. À l'époque, je crois qu'on travaillait sur l'énéagramme, je ne sais plus quoi. Enfin, on faisait aussi de la PNL, on faisait un programme assez complet. Et puis, on se retrouve coincé un après-midi en rentrant parce qu'il y a grève de train. On passe, je crois que c'était à Perpignan, on est resté une après-midi coincé dans la gare. Et là, on s'est dit, mais ce n'est pas possible, 25 personnes, le temps qu'on perd, il faut qu'on trouve une autre solution. Et c'est comme ça qu'est né, dans le cadre de l'école de coaching qu'on a co-créée à l'époque, les premières formations au téléphone. Et au début, ça a fait, dans le monde de la PNL notamment, mais ça faisait réagir tout le monde parce qu'on dit, mais comment tu peux accompagner quelqu'un alors que tu n'as pas le feedback direct, etc. Bon, la réalité, c'est que quand on a commencé, on a eu des groupes de 70 personnes, c'était énorme. Donc, c'est intéressant de voir comment, au début, une idée n'est pas reçue, puis après, elle est discutée, puis finalement, elle est appréciée. Aujourd'hui, pour rebondir sur la PNL, c'est vrai que la PNL, ça demande énormément de travail, d'interaction. Et moi, j'ai longtemps résisté en tant que professionnel, enseignant de la PNL, etc., à l'idée de pouvoir enseigner par le biais de vidéos ou voilà, ou à distance. Et en fait, les choses aujourd'hui s'affinent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de finesse, je pense, aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il est clair qu'une formation en ligne n'égale pas une formation en salle. C'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'interaction, on n'a pas la connexion. Il y a plein de choses. Mais néanmoins, à travers une vidéo, on apprend plein de choses. On peut même, si la vidéo est bien faite, être invité à expérimenter des choses. Parce que le plus important, c'est évidemment l'expérimentation. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir plusieurs strates d'informations. Et c'est comme ça que moi, peu à peu, j'ai évolué avec cette idée que probablement, quand on fait une présentation sur une préparation mentale, sur un auto-ancrage, sur la manière de gérer un nœud relationnel, par exemple, sur la manière de définir un objectif, sur la manière de, bref, de trouver, d'aller accéder en fait à son champ de valeur, la manière de traiter un problème de phobie, etc. Eh bien, on peut faire une belle démonstration, la filmer, d'abord une belle explication. Ensuite, une belle démonstration, et puis inviter les gens à vivre un petit peu comme ça à distance, parce qu'on va les accompagner pour ça, et donc à expérimenter les choses. Alors évidemment que ça ne remplace pas une formation, mais ça la complète beaucoup, et soit avant, soit après, soit pendant. Et du coup, ça ouvre en tout cas le champ à, je crois, à toute une clientèle, parce que je rappelle aussi que si on prend le monde francophone, en France, il y a 60 millions de personnes, mais dans le monde, il y a 283 millions de personnes. C'est juste énorme. Et je crois qu'il y a, et grâce à l'évolution des choses, eh bien, une ouverture très grande à avoir à ces nouvelles technologies. Et encore une fois, ne mettons pas en compétition les deux. Disons qu'il y a les deux. Hein. Il y a le travail en salle, il y a le travail en vidéo. Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça n'empêche pas que ce soit très, très riche pour un grand nombre de gens.
Ouais, tu prêches la convaincue et je suis content de te l'entendre dire, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ne le voient pas. Et effectivement, c'est toujours, il y a du positif et du négatif sur chaque chose. On va dire, il y a des points de force et des points de faiblesse. Je ne dirais même pas positif, négatif, point de force, point de faiblesse. Et effectivement, le présentiel a ce point de force de cet échange, cette interaction, cette dynamique aussi, cette espèce d'énergie de groupe. Absolument. Qui est vraiment incroyable. Et à côté, le numérique a aussi ce côté-là, c'est qu'on peut avoir des personnes, on peut être au fond fin de la Papouasie et pouvoir se former à n'importe quel domaine. Et plus l'interaction aussi des webinaires, de toutes ces choses-là. Donc oui, tout à fait. C'est, on va dire, rassembler plutôt que diviser.
Absolument. Moi, par exemple, j'ai en formation en salle actuellement, là, puisque je suis en formation à Lyon. Ben, j'ai des gens qui viennent, je pense, notamment j'ai quelqu'un d'Algérie, j'ai des gens de Maroc, j'ai des gens qui viennent très loin et qui suivent parfois des vidéos, même d'ailleurs des gens qui ne sont pas forcément très loin, mais qui suivent des vidéos, qui ont été sensibilisés à des choses. Donc, au début, ben, ils ont capté une information, ensuite ils l'ont écouté, ça les a intéressés sur eux. Et c'est vrai que dans la strate d'apprentissage, hein, le premier niveau, c'est la lecture. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des séminaires qu'on a arrêté de lire des livres. On sait très bien que lire, c'est comprendre, il suffit pas. Ensuite, on a une vidéo. Alors là, ça donne un petit peu plus d'énergie. Bon, c'est comme un concert. Une vidéo, ça n'aura jamais l'impact d'être en salle face à un artiste. Mais après, la troisième chose, c'est d'avoir une démonstration et de reproduire les choses. Et la dernière, c'est non seulement de l'expérimenter, mais de l'enseigner. Et donc, évidemment qu'on a des axes d'apprentissage et je pense qu'il y en a pour tous les étages et que c'est chouette de pouvoir nourrir tous ces étages.
Ouais, et puis ça serait vraiment dommage, quoi. Ça serait vraiment dommage de laisser ça et je crois que...
En plus, c'est très pratique parce que le fait d'avoir des cours en ligne, enfin moi, je me suis mis aux formations depuis 2 ans de manière assez importante pour d'autres raisons, notamment pour le développement de savoir-faire sur Internet. Et je trouve que ça offre Internet, que ce soit pour voir des vidéos, avoir un espace dans lequel on peut revenir inlassablement sur des techniques, rentrer beaucoup plus dans du raffinement, parce que évidemment, quand moi, ça fait des années, donc quand je fais un exercice d'accompagnement, s'il y a des gens qui sont très bons dans la chanson, moi, je pense être un artiste de l'accompagnement, ce qui veut dire que je ne peux pas enseigner tous les détails que je fais, c'est trop, mais par contre, quelqu'un qui est formé, quand il revient, il va revoir des choses qu'il n'avait pas vues la première fois, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très intéressant, ce support de vidéo. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a 3 choses qui sont assez intéressantes. C'est le fait d'avoir des supports dans lesquels je peux revenir, comme des vidéos, le fait de pouvoir interagir à distance et donc de poser des questions, revenir sur des points, et puis, bien sûr, l'accès à la formation en salle, si toutefois elle est possible. Nous, c'est le cas. Et on s'aperçoit que ces 3 anneaux, finalement, ils se complètent parfaitement bien.
Intéressant, très intéressant. Et là, aujourd'hui, donc, du coup, tu as créé un nouveau programme en ligne qui va justement dans le sens, dans cette dynamique-là?
Absolument, c'est-à-dire que bon, moi j'avais déjà fait des vidéos un petit peu en ligne, mais on connaît tout ça. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde qui est très riche en stimulation. Ouais. Et donc, pour garder le cap, bah, faut être très, très motivé. Et surtout, si on est seul chez soi, on sait aussi à quel point la dimension du groupe, elle est mobilisante pour tenir une distance. Donc, ce qui veut dire que les formations en ligne sans accompagnement, elles sont, aujourd'hui, on le sait, hein, il y a 70% de pertes très, très vite. Hein. Pourquoi ? Bah, parce que c'est compliqué pour un être humain tout seul d'avancer sur un objectif qui est à moyen terme ou long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, bon, OK, on va reprendre la partie formation, animation, et puis on va l'enrichir de quoi ? Eh bien, d'un suivi régulier. Alors, c'est un suivi qui se fait en ligne, dont les gens interagissent. S'ils ne peuvent pas être présents, ce n'est pas grave, c'est enregistré, etc. Puis on va rajouter un groupe où les gens peuvent interagir ensemble. On va rajouter aussi la possibilité, s'ils le souhaitent, de se retrouver sur un événement. Et pour compléter le tout, s'ils viennent, ils ont aussi la possibilité de venir dans des formations en salle, sous réserve évidemment d'un petit complément. Mais c'est, et j'ai envie de dire, il y en a pour tout le monde, en fonction de là où il en est, de ce qui est pratique pour lui, de ce à quoi il est sensible. Et c'est la combinaison de l'ensemble que je trouve particulièrement intéressante. Et donc, pour répondre à ta question, c'est effectivement sur cet axe qu'on a beaucoup travaillé l'an dernier. Et aujourd'hui, effectivement, je fais un premier lancement en ce moment. Pour ceux qui l'écoutent au mois de janvier, là, on est effectivement dans une communication assez importante. Et ça, voilà, je souhaite pouvoir offrir en fait une formation complète de niveau 1, 2, 3 en PNL, ce qui veut dire
sur la PNL.
Voilà, donc il y a une cinquantaine d'heures en vidéo. Il y a aussi tous les 15 jours, il y a une soirée complète où les gens peuvent interagir ensemble par des plateformes qui le permettent. Et puis on a des coachs aussi qui individuellement accompagnent les gens. Et puis on a des événements qui rassemblent aussi les personnes. Voilà. Puis s'ils veulent en plus de ça venir en formation, donc ils auront la possibilité d'accéder pour des prix évidemment plus avantageux aux formations. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, il y a ceux qui n'ont jamais fait de formation qui peuvent entrer là-dedans. Il y a ceux qui ont déjà fait de la formation qui peuvent nous rejoindre, soit sur un mastermind, soit sur des vidéos. Enfin bref, il y en a pour tout le monde et c'est ça que je trouve de particulièrement intéressant aujourd'hui en termes d'offres clients, en termes de services apportés aux gens qui souhaitent aujourd'hui grandir, croître et acquérir des outils pour se développer.
Et si vous êtes assez futé, vous remarquerez qu'il y a un lien dans la description de ce podcast vers le lien, vers la formation. Donc, je vous invite vivement à regarder. Super, merci. Et toujours pour en revenir au web, donc du coup, c'est vrai que moi, j'étais connu par le web et tu faisais de la formation au début. Ben, il me semblait que tu étais plus à même avoir à 90% sur la formation en présentiel. Et, oui. Et je trouve ça intéressant justement de revenir peut-être quelques années en arrière pour voir justement comment, eh bien, j'imagine que tu n'as pas fait ça par hasard, qu'il y avait une intention derrière, ou du moins une dynamique, ou une énergie qui a été mise derrière, et de voir un petit peu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place. Et on a tendance à dire, ben, généralement, je vais mettre au web pour vendre de la formation en ligne ou vendre quelque chose sur le web, et je vais faire du présentiel pour vendre quelque chose en présentiel. Or là, dans ton cas, j'aime bien parce que ça prouve qu'il est possible d'utiliser le web pour faire du présentiel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ?
Alors, moi, effectivement, vous imaginez bien qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé la formation, on n'avait pas le web, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'email, enfin, c'était autre chose. Donc, moi, j'ai toujours vécu pour le travail en salle. Après, j'ai connu aussi les grandes salles, hein, par exemple, parce qu'au début, on a toujours des petits groupes, puis on a fini par avoir des grands groupes. Mais la réalité, c'est que moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est la connexion. Et donc, du coup, c'est ce qu'offre le… Ah ben, la lumière est revenue. Donc, c'est ce que j'offre, enfin, c'est ce que j'aime aux gens, c'est-à-dire cette qualité d'échange qu'on va avoir dans un groupe de 12, 15, 20, 25, 30 personnes. Au-delà de 50, évidemment, qu'on perd un peu la connexion avec les personnes, sauf si on est un peu plus dans la durée. Alors, ça n'empêche pas de vivre des moments très forts. Alors, on a des gros événements, on a beaucoup plus de monde que ça. Mais pour moi, les moments les plus gratifiants, si je puis dire, les plus nourrissants, c'est vraiment les moments de connexion que j'ai sur des séminaires quand on est en montagne, qu'on passe une semaine ensemble et qu'on a vraiment des connexions de cœur à cœur. Donc, moi, si j'avais dans mes valeurs, moi, c'est cette notion de présence et d'interaction et de qualité d'interaction, c'est celle pour moi le plus riche, en fait. Après, quand j'ai décidé de mettre des vidéos sur Internet, puisque je l'ai fait depuis il y a longtemps, parce que j'avais monté des programmes vidéo, je les ai découpés et puis après on les a mis en livre, en accès libre, notamment sur YouTube. Et ça, l'ambition qui était derrière, c'était vraiment de partager au plus grand nombre des clés simples qui peuvent faire une vraie différence. Donc moi, mon ambition, elle a plus été d'être dans cette dynamique finalement de partager des choses qui me semblaient utiles. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, mais je n'en avais pas rendu compte au début, que ça a du coup attiré pas mal de monde. Après, on m'a dit, c'est Polo, c'est bien de donner du gratuit, mais tu devrais structurer les choses pour finalement les vendre. Parce qu'au vu du nombre de gens qui consomment tes vidéos gratuites, bah, surtout que tu en as fait quand même beaucoup, parce que j'avais mis des programmes un petit peu compliqués, qui sont d'ailleurs toujours sur YouTube. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas faire ça. Mais par contre, en me formant il y a 2-3 ans, j'ai mieux compris comment fonctionnait le web. J'ai mieux compris. Et là, je me suis dit, mais en fait, dans ma mission, il y a deux choses à faire. C'est un, diffuser, et deux, éduquer. Éduquer, ça veut dire que je ne vais pas seulement éduquer des gens qui viennent me voir, mais donner de l'accès à ces outils à des gens qui sont parfois très loin, qui n'ont juste pas la possibilité de venir en avion, qui n'ont juste pas le temps, qui n'ont juste pas ceci, qui n'ont juste pas cela. Et donc, je me suis dit, bah, ma mission, c'est celle-là, c'est de diffuser, c'est de partager, c'est d'enrichir un maximum de gens par des outils qui me semblent essentiels. Donc, à partir de là, bah, j'ai commencé à investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour me former et apprendre à faire ça. Et aujourd'hui, bah, voilà, je viens de passer une strate parce qu'on a monté un programme un peu plus long. Et ça me plaît. Mais très franchement, Nico, c'est pas des raisons d'argent qui me motivent. Moi, ce qui me motive, c'est de partager, d'apporter des produits de qualité. Et puis après, bah, la conséquence, c'est qu'effectivement, bah, y a des gens qui l'achètent. Et que, du coup, mon entreprise, répondant à ce pourquoi elle existe, et bah, du coup, trouve des fonds pour continuer à évoluer. Voilà. Alors, oui, on peut faire de l'argent sur Internet. Hein. Je suis absolument pas contre ça. Il y a des gens qui en font et qui en font beaucoup. C'est super. Mais la principale motivation n'est pas celle-là. Alors, il y en a une autre qui est aussi intéressante, c'est effectivement l'économie. Parce que quand vous faites une formation en salle, ben, il y a des coûts de déplacement, d'hébergement, de choses comme ça, ben, que moi j'ai en tant qu'organisateur et que ont aussi les gens qui viennent me chercher. Donc, tout ça pour dire que eh ben, avant d'investir beaucoup, c'est un peu comme acheter un livre avant d'aller faire une formation. C'est-à-dire que c'est une première strate. Regarder une vidéo ou etc., c'est une deuxième strate. Etc. etc. Voilà, donc je trouve que la formation en salle a pour moi, c'est la dimension la plus importante. Et après, retraduire ce qu'on peut mettre en salle sur Internet, c'était un boulot qui a pris beaucoup de temps et auquel, je dois reconnaître, j'ai eu beaucoup de résistance.
Intéressant. Alors, du coup, je vais te faire aller sur un terrain qui est un petit peu différent parce que tu viens de dire des mots-clés qui m'ont fait énormément plaisir. Tu as parlé de mission. Et je me suis, disons les choses, clairement, je me suis battu dernièrement, on va dire un débat d'idées, pas battu physiquement, avec d'autres entrepreneurs du web qui me disaient non, mais arrête avec tes conneries de mission, de machin et compagnie, il faut faire du fric sur Internet, c'est ça, focalise-toi sur ça, sur la mission. Voilà, c'est ceux qui sont sur la mission, c'est un peu genre, tu es complètement décorrélé du business. Moi, je suis fermement convaincu, et d'ailleurs, l'initiative de tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est parce que je veux accomplir quelque chose de grand en termes de mission, en termes de ma mission de vie, ma femme. Et je suis convaincu que lorsque tu es drivé par cette mission, tu fais des choix, tu fais des actions, tu réalises des choses qui sont au-delà de toi, déjà, ça c'est clair. Et qu'il est possible, c'est surtout ça le point clé, il est possible de réussir et que ce n'est pas antinomique avec une réussite business. Donc voilà.
Alors, tu as complètement raison. Si j'avais à travailler avec ces personnes qui ont plus envie de gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'ils ont pas de mission. Ça ne veut pas dire qu'ils ont de valeur. Sauf que la valeur actuelle, en fonction de leur niveau de là où ils en sont, c'est effectivement de mettre la priorité. Parce que leur valeur, c'est de rechercher alors, soit de la sécurité financière, soit de l'abondance financière. Et c'est tout à fait sa place. Et donc, de gagner de l'argent. Après, la question, c'est avec quoi je gagne de l'argent. Mais ça, c'est une réflexion profonde. C'est-à-dire que, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis porté par le fait de gagner de l'argent? Et auquel cas, suis-je dans une espèce d'avidité? Est-ce que j'ai un vrai plaisir? Est-ce que c'est le manque psychologique, hein, je veux dire, ou est-ce que c'est réellement le plaisir d'en gagner? Si je suis vraiment dans le plaisir d'en gagner, je vais être aussi dans le plaisir d'en gagner proprement, c'est-à-dire une chose n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que si en plus de ça j'ai le sentiment de servir le monde, eh ben, je n'ai pas l'impression de gagner de l'argent de la même façon que si j'ai l'impression que voilà, j'ai gagné un maximum de pognon, mais là je m'en fous. Mais tout ça, c'est des états de conscience, ça vient aussi d'une évolution personnelle. personnel. C'est un travail de réflexion profonde. Moi, j'ai un tas de gens qui arrivent dans mes séminaires qui viennent avec des intentions de gagner de l'argent, de réussir. Ils viennent chercher des outils pour réussir. Et on ne va pas leur dire que c'est une mauvaise chose de réussir, bien au contraire. Mais on va les faire travailler sur des finalités qui vont au-delà de réussir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, ils vont ouvrir à des niveaux de conscience d'autres choses qui sont plus importantes que d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Et je ne suis pas contre l'argent, mais si j'en avais beaucoup, finalement, au-delà de ça, qu'est-ce qui me touche véritablement? Et on a des processus qui vont leur faire souvent gagner du temps, parce que on peut passer sa vie à vouloir gagner. On peut se brûler aussi. Hein. On peut se brûler la santé, on peut se brûler les relations proches, on peut se brûler de tous les côtés à vouloir faire de la performance. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a un axe performance qui amène à la réussite et puis il y a un axe valeur, en quelque sorte, qui amène au bonheur. Et moi, je crois au bonheur et à la réussite. Mais le bonheur, ce n'est pas la même quête que la réussite. Les deux peuvent tout à fait aller en avant. Et effectivement, tu avais raison de le dire, quand quelqu'un est porté par une mission, ça n'empêche pas de gagner beaucoup d'argent. La différence, c'est que comme il est en mission, eh bien, ce qu'il vit chaque jour est nourrissant. Mmh. Et c'est le plaisir d'y aller. Comme disait Noah, c'est le plaisir doit précéder la victoire. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans le plaisir du jeu, J-E ou J-E, eh bien, c'est là que je trouve mon excellence. Mmh. Et ça n'empêche absolument pas d'avoir des résultats. Et s'il y a des résultats, c'est chouette. S'il n'y en a pas, c'est chouette aussi, j'ai presque envie de dire. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que s'il n'y a pas ces résultats, on va aimer l'échec. Pourquoi ? Parce que l'échec, c'est juste l'occasion de continuer à progresser. Mmh. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Et là, ça va ouvrir à tout un champ de conscience, de sensibilité, de cohérence, en fait, qui vont placer, je pense, le business à un tout autre niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle au sens profond de faire du business, au sens profond d'enseigner, au sens profond de faire du management, au sens profond d'aller vendre des aspirateurs, au sens profond de soigner des gens, au sens profond d'aimer, de faire des enfants, etc. Au sens profond de voyager. Et quand un être humain est connecté à son sens profond, tu l'as très bien compris, il est dans sa mission. Hein, l'inverse, c'est quand il est dans sa démission. Et là, il est complètement porté. Et là, il y a des composantes chez l'être humain qu'on retrouve à chaque fois que des gens sont embarqués dans cette dimension d'être chaque jour nourri par ce qu'ils font. Prenons David Laroche, par exemple. David Laroche, c'est un mec qui bosse énormément. Ben, au début, il était complètement perdu, mais le fait de réaligner quelques points, de comprendre comment ça marche et de voir comment ça l'a transformé, ben, aujourd'hui, il est transporté, si je puis dire. Pas par le fait de gagner des sous, parce qu'il en gagne, ben, mais il s'en fout qu'il parle à une personne. C'est l'acte du don qui est le plus nourrissant. Et parce qu'il est affûté de plus en plus sur cet acte de don, et ben, du coup, ça ne l'empêche pas de réussir. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à s'améliorer chaque jour. Voilà. Donc, c'est cette dynamique-là, en fait, que je trouve intéressante, beaucoup plus que tout. Au fond, à n'importe quel moment où la vie s'arrête, je peux dire « Waouh !» Quand je me retourne, j'en ai profité. Je peux avoir un projet très fort pour l'année 2019, mais la réussite de l'année 2019, c'est le cumul des 365 jours que j'aurais réussi. Mais si je me fais mal toute l'année pour espérer en septembre d'aller un peu mieux et qu'au mois d'août, je perds tout, j'ai juste perdu mon année. Donc, pour moi, c'est là où ça devient intéressant de se dire « Waouh, qu'est-ce qui m'anime vraiment ?» Peut-être que gagner de l'argent, ça m'anime, c'est super. Après, la question, c'est au-delà de ça, qu'est-ce que ça nourrit d'autre ? Qu'est-ce que ça nourrit d'autre ? Qu'est-ce que ça nourrit d'autre ? Et c'est là mon job qui est d'amener les gens de plus en plus dans cette espèce de conscience de ce qui profondément les anime et qui, au fond, quel que soit le moment où leur vie va s'arrêter, quand ils vont se retourner, ils vont se dire « Waouh, j'ai trop bien vécu pour ne rien regretter. Pourquoi ? Parce que j'en ai vraiment profité, en fait.
» Ouais, c'est génial. C'est super pertinent ce que tu dis. C'est vraiment… Ouais, c'est vraiment ça. Et ça fait écho justement à des personnes qui sont… pas forcément qui sont là, tu vois, juste dans une course à la performance, comme tu dis, et qui finalement, tu les vois, ben, ils ont tout pour réussir, ben, ils ont tout pour être heureux, et finalement, tu sens que les personnes sont profondément tristes dans leur façon d'être et de vivre, parce que justement, il n'y a pas ce truc-là derrière qui les nourrit, ce truc qui fait que tu vivres. Et c'est bien, et justement, c'est marrant, parce qu'avec la PNL, je trouve que c'est… tous les outils de la paix, mais c'est d'une richesse pour trouver avec les valeurs, la mission de vie, toutes ces dynamiques. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais.
Après, pour moi, la PNL, il y en a partout. Mais c'est vrai que la découverte du fonctionnement neurophysiologique et de la dimension qu'on peut avoir en termes de relation avec soi et avec l'environnement, puisque c'est l'ambition, c'est d'élever le niveau d'être pour accroître le niveau d'interaction. Et du coup, d'intégrer de plus en plus des stratégies cohérentes par rapport à ce à quoi on aspire, que ce soit en termes de valeur ou de projet. Voilà, je veux dire qu'il y a plein d'approches qui font ça, elles ont toutes leur place. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la combinaison d'une prise en compte de la dimension humaine, à la fois sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel et onirique. Et je pense qu'on peut, il y a du travail à tous les étages. Et en tout cas, le fait d'aligner tous les étages, ça va donner une profondeur, une intensité, un raffinement à la vie qui est juste extraordinaire, ça c'est sûr.
Ah, intéressant. C'est intéressant cette notion d'aligner les étages. J'aime beaucoup cette...
Parfois, on a des gens, moi je le vois beaucoup dans les formations, ils sont très préoccupés par la dimension mentale, ils veulent tout comprendre. Ils lisent, ils apprennent plein de trucs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans cette soif, mais ils gagneraient énormément à descendre un peu plus bas. Parfois, il y a des gens qui sont tellement pris dans leur émotion qu'ils ont du mal à prendre des décisions. Donc, on voit qu'en fait, l'être humain, il est vraiment fait de plusieurs strates, et apprendre à appréhender son corps, apprendre à appréhender son énergie, apprendre à appréhender ses émotions, apprendre à appréhender la manière de fonctionner au niveau de son interaction mentale, la dimension spirituelle. Voilà, mettre des mots, mettre de la sensibilité, mettre de la profondeur dans tous ces étages-là, ça donne énormément de sens à la vie. En fait, ça permet de la comprendre, tout simplement. Et puis, du coup, d'incarner des aspirations dans son quotidien. Parce que, voilà, on est parfois un petit peu connecté là-haut, mais la réalité, c'est que l'être humain, il est à la fois connecté la tête dans les étoiles, mais il le sera d'autant plus heureux qu'il a les pieds sur terre et qu'il peut concrètement, parce que je pense que c'est notre quête à tous, c'est-à-dire on a des aspirations et il faut les incarner dans notre réalisation, c'est-à-dire dans des comportements quotidiens.
C'est ça, c'est exactement
l'univers de l'argent rejoint l'univers de la spiritualité. Ouais. Moi, je pense que c'est ces deux dimensions qui sont vraiment complémentaires. L'art, on est d'un côté très, très, très cerveau droit, très, très connecté, très en reliance, et en bas, on est dans la structure, la construction, la concrétisation, en fait. Et les deux aspects sont évidemment deux polarités qui ne demandent qu'à se rejoindre.
Et souvent, ce qui manque, on le voit, c'est certaines personnes qui sont trop dans la partie spirituelle, trop la tête dans les étoiles. Et finalement, on voit... Moi, j'ai toujours l'image un petit peu de l'artiste fauché. C'est ça, ça, où on va être beaucoup dans l'expérimentation. Et voilà. Et puis après, à côté, d'autres personnes qui sont tellement terre à terre qu'on en perd le sens, on en perd la dynamique, et d'arriver à relier ces deux choses. D'arriver à... Et c'est ça qui... Ouais, je dirais... Pardon ?
Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est le fait de se sensibiliser à toutes ces dimensions.
C'est qui incarne, alors là, je vais prendre des mots un petit peu plus spirituels, mais qui fait l'incarnation du divin, des choses. C'est quand on arrive à amener ces deux choses-là, et bam, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se manifeste, et quelque chose de...
Et c'est peut-être des choses très très simples, et c'est ça que j'adore, moi, c'est que l'intensité dans la simplicité et dans le raffinement, c'est-à-dire que si j'aspire, par exemple, j'ai vraiment pris conscience que l'intensité d'un échange est importante pour moi, l'écoute, la considération, la bienveillance, je peux être au petit déjeuner le matin, mais parce que j'ai mis en conscience le fait que la qualité de la relation que j'ai avec mes enfants à ce moment-là, c'est un moment très important, je ne vais pas passer la moitié de mon petit déjeuner avec mon téléphone. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, c'est se réveiller le matin avec de l'énergie, sourire aux gens. Enfin, c'est dans les petites choses. Je regardais un film il y a deux jours, c'est l'histoire d'un jeune qui apprend qu'il a le cancer et qu'il reste un mois en gros à vivre. Et comment il décide, en fait, pendant un mois de profiter pleinement de la vie. On voit comment toute l'intensité qu'il y a. On se dit, mais alors à la fois ça rend triste, mais ça bouleverse. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que la véritable vie, l'intensité des choses, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir au quotidien et qu'on a tendance à perdre parce qu'on est parti dans la course à la réussite. Et en fait, la seule chose qu'on ne regrettera jamais d'avoir vécu, c'est l'intensité d'une connexion, c'est l'intensité de l'amour, tout le reste.
L'intensité de la vie.
Voilà. Donc ça peut être des choses très concrètes, ça peut paraître très spirituel, mais la réalité, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement tangible et extrêmement physique, en fait.
Complètement, complètement. Je suis, tu prêches à convaincu.
Tu prêches à convaincu. Sinon, on n'en serait pas là dans cette discussion.
Exactement. Et on va finir l'interview sur une dernière question que j'adore poser. Moi, j'aime bien aller toujours un peu à l'encontre de ce qu'on a tendance à voir, à entendre sur le web. Donc, on est beaucoup sur les notions de réussite, de succès et tout ça. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est nos échecs. Et justement, la question que je pose à tous mes interviewés depuis quelque temps, c'est quel a été l'un de tes pires échecs et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré?
Alors, un des moments qui a été le plus compliqué, le pire échec, c'est que quand je me suis séparé d'Alain Carole, on est dans les années 2000,
ouais.
Pour des raisons administratives, des prises en charge notamment qui n'ont pas été prises en compte par des raisons administratives parce que j'avais fait beaucoup de téléphones, je me suis retrouvé dans une perte très très importante. En gros, pour faire court, j'ai perdu à peu près 130 000 francs, à l'époque on était en francs. Et quand vous êtes sur une perte de 130 000 francs, bah, j'avais 80 mètres carrés de bureau, 7 salariés, enfin, c'est l'effondrement pendant un an. Et à ce moment-là, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, en plus effectivement c'est compliqué, moi j'étais à la limite de la déprime. Mais ce qui a été très puissant, dans cette rencontre, dans ces années extrêmement difficiles, à la fois sur le plan humain, à la fois sur le plan financier, à la fois sur le plan matériel, à la fois, vous imaginez, après 10 ans de développement de la PNL, je faisais 1,8 million de francs à l'époque, hein, ce qui était beaucoup en termes de chiffre d'affaires, ceci comme la mienne. Et me retrouver comme ça à devoir, parce que c'est le tribunal de commerce hein, qui descend, hein, quand vous avez trois fois le capital en perte, bah, du coup, voilà, c'est. Tout ferme, quoi, en gros, avec toutes les complications que ça entraîne sur le plan. Voilà. Et donc, du coup, je me suis retrouvé sans rien, en fait. Et j'ai continué à animer les séminaires. Pourquoi ? Parce que j'avais des gens qui étaient engagés sur un an, deux ans, sur des séminaires de base, de tech, de prat, de maître prat. Et j'ai continué et je suis allé voir un partenaire qui était le plus important, c'est Psychologie, que je remercie encore, Psychologie Magazine. À l'époque, je faisais du tiers de page, voire de la page entière, pratiquement tous les mois. Et c'était mon plus gros vecteur d'apport de clients. Sauf que je ne pouvais plus les payer puisque j'étais en cessation de paiement. Et donc, du coup, je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, moi, j'ai la seule chose que je veux continuer à faire, c'est des séminaires. Et la seule façon que je puisse continuer à le faire et donc, du coup, à repartir à titre individuel parce que je ne vais pas lâcher le morceau, eh bien, c'est que vous me souteniez. Mais on a... et donc, ils l'ont fait. Ils ont accepté de jouer la carte et je les remercie encore. Et ça a été vraiment, à ce moment-là, un partenaire important. Et du coup, la phase qui a été vraiment difficile pour moi, c'est de me retrouver sans rien. Et je me revois chez moi, dans ma cuisine, en train de me dire, mais Polo, tout ce que tu as appris sur les valeurs, sur la vision, sur l'énergie, eh bien, c'est le moment ou jamais de le mettre vraiment, de l'incarner dans ton quotidien. Et j'ai mis une telle énergie, une telle ardeur, une telle... voilà, que je t'assure, mon cher Nico, je n'ai plus jamais enseigné la PNL de la même façon depuis ces années-là. Ça a été une source d'apprentissage, d'intensité. C'est-à-dire qu'autant j'ai dû faire face à des contraintes compliquées, autant elles m'ont fait grandir de l'intérieur. Parce que je suis vraiment passé à des concepts comme ça qu'on entend, qui ont l'air comme ça très, très bien sur les bouquins, et puis qu'on n'arrive pas à intégrer dans son quotidien. Et là, ça m'a obligé à les incarner
ouais.
À les vivre, à tout donner dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai accompagné des personnes dans les années qui ont suivi, et c'est encore vrai aujourd'hui, je peux t'assurer qu'on vit les choses vraiment parce que je me rends compte que tant que ça reste là-haut, c'est intéressant actuellement, mais c'est pas ça qui fait que ça change. C'est qu'on est vraiment connecté à la chose et ayant donc du coup faire face, alors, je l'avais déjà fait auparavant, mais faire face à des contraintes majeures, je pense que ces années-là, elles ont été pour moi vraiment les sources d'apprentissage les plus grandes quant au potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, la faculté qu'on a de rebondir, simplement parce que on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on prend vraiment les rênes de sa vie et plutôt que rentrer dans la déresponsabilisation en disant que c'est à cause des autres, de la vie, des impôts, des machins, des trucs, le fait qu'on sorte absolument de toute forme de culpabilité vis-à-vis des autres et de soi-même, le fait qu'on s'interdise vraiment de rester, on peut le faire un moment, mais il ne faut pas rester trop longtemps dans toutes les postures de victimisation, etc. Vraiment, c'est l'occasion pour moi, c'est un vrai tatami en fait, hein, ça a été une source d'expérience extrêmement importante pour travailler mes muscles, en fait, en quelque sorte, comme dirait mon ami Mani. Je pense à Mani et Sam, qui travaille beaucoup sur le corps, que je salue au passage. Et voilà, et du coup, de faire quelque chose, de faire de ces outils, de cette philosophie de vie, en fait, un art de vivre plus qu'une théorie qu'on ne fait qu'enseigner.
Ouais, voilà. C'est super, c'est super. Il y a vraiment aussi une autre chose que je trouve géniale, c'est que tu vois, vu tout l'état que tu as vécu, toute la situation, la première chose qu'on se dit, c'est j'arrête, je peux faire autre chose. Et toi, la première…
À l'époque, c'était compliqué parce que comme je n'ai plus un rond, moi, je faisais des séminaires quoi, certes, mais en même temps, il y avait cette double chose.
T'as continué quand même.
D'abord, c'était pour honorer les clients qui m'avaient fait confiance. Ouais. Il n'est pas question que je ne livre pas. Mais en même temps, dans cette exigence, j'étais avec eux parce que quand ils parlaient de problèmes, bon, ben évidemment que moi, je les vivais complètement. Donc, je me suis jamais senti autant connecté à mes stagiaires que depuis cette époque. Ouais. Et ils avaient presque. J'avais l'impression qu'on était plus dans un groupe qu'on appelait à l'époque Balint, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui un mastermind. On était tous embarqués dans nos difficultés à partager des clés et à avancer. Bon, moi j'étais le formateur, mais j'avais l'impression que quand j'enseignais un truc, je parlais de moi en permanence en fait. Mmh. Et je pense que ça a mis une intensité dans ma vie, dans la manière d'enseigner, qui fait que bah, aujourd'hui. Tant que je respire, je le ferai, quoi. Même si j'avais tout l'argent du monde, je pense tout pognon. Je pense que si j'étais multimilliardaire, je m'organiserais la vie que j'ai aujourd'hui, qui est faite de ces connexions, de ces moments de simplicité, de profondeur et tout ça.
C'est génial. Voilà. C'est génial.
Parce que ça a été dans ma vie des moments à la fois d'ombre et de lumière fantastiques. D'ailleurs, nous aussi, on joue à l'ombre et à la lumière.
Je joue toujours avec l'ombre et la lumière.
C'est la lampe qui s'éteint quand j'arrête de bouger.
Mais c'est bien, tu as un halo de lumière juste au-dessus de.
Ouais, voilà. Ouais,
bientôt, je ne vois pas forcément. Donc, elle est toujours là. Et super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la richesse de cette interview. Je savais que ça serait une bonne interview en te demandant et je te remercie vraiment de tout ce que tu nous as apporté. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour finir?
Ben, le plus simple, c'est Google. Hein. Paul Pironet sur Google, vous êtes. Très largement nourri, j'ai des livres parce que j'ai écrit pas mal de livres, j'ai plein de vidéos, beaucoup de gratuits. Mmh. Et puis évidemment, on a des sites internet avec des séminaires. Et puis en ce moment, on a un groupe aussi que j'ai monté il n'y a pas très longtemps, puisque l'idée c'est d'accroître la communauté. Donc j'ai créé une communauté sur Facebook qui s'appelle Révéler votre plein potentiel, qui est ouverte à tout le monde, où il faut quand même remplir des questions pour qu'on valide l'entrée, qu'on s'assure qu'on a bien sûr la même valeur, et qui marche plutôt pas mal. Donc, je partage énormément de contenu. Quand j'ai des séminaires, je fais des lives, des soirées à thème sur des choses. Donc, je les partage là-dessus. Voilà. Donc, c'est un espace qui est gratuit, accessible à tous et qui a pour ambition de contribuer à créer cette émulation collective autour de cette croissance personnelle qu'on peut avoir chaque jour dans sa vie, soit personnelle ou professionnelle.
Génial. De toute façon, vous retrouverez les liens dans la description. Voilà. Donc, tout est là. Et bien, écoute, merci pour tout et au plaisir d'échanger au plus vite.
Bien, écoute, un immense remerciement pour le temps que tu prends avec moi et puis pour ceux qui nous écoutent. Ben voilà, si j'avais une chose comme ça pour terminer, je vous dirais continuez à croire en vous, à allumer tout ce qui peut briller, hein, parce que on est parfois beaucoup dans la peur de briller. Ah. Et briller, ça ne veut pas dire prendre la place des autres, ça veut dire leur donner la permission de le faire. Et puis ça n'empêche pas d'être aussi à l'écoute et toujours dans cette question permanente, c'est comment je peux me rendre utile aux autres. Parce que plus je crois que je donne, en fait, plus la vie me revient sur des lois qui sont évidemment essentielles. Et donc, voilà, il n'y a pas plus grand bonheur que celui de partager, je crois. Voilà, merci à vous en tout cas.
Génial, merci.